Chapitre 6. 22 octobre 2010. Hôtel Monge, chambre 3. Un sac fait à la va-vite après l'appel du capitaine Rampin, jeté sur le lit. Le Monge, ancien hôtel du centre, vient d'être entièrement rénové. Je vais au restaurant de cet établissement depuis que je suis petite, à chaque réveillon de Noël avec mes parents et Colette. Et j'y ai déjeuné parfois avec des dirigeants du foot, j'ignore lesquels. Ils venaient chercher ma tante à la cordonnerie, ils sentaient bon le parfum et disaient « Madame Septembre, on va manger chez Georges, on vous invite !» Georges, c'était Georges Vezan, l'ancien propriétaire et chef cuistot. C'était sacrément bon, j'en ai encore l'eau à la bouche. Quand il l'invitait, elle abandonnait la chaussure qu'elle avait entre les mains, me récupérait vite fait là où j'étais, souvent en place de l'église à faire du patin à roulettes en sueur, les genoux écorchés. Je me lavais les mains, me passais un coup de brosse, et on partait déjeuner. Pour moi, c'était un jour de fête. Belle nappe blanche, verre en cristal, escalope à la crème, pommes de terre sautées, friture, jambon cru, escargot de Bourgogne. Et ma tante avalait sa purée avec une sauce spéciale préparée par Georges, penchée sur son assiette, intimidée et silencieuse. Fière aussi que ces hommes-là l'invitent, la considèrent comme une pièce importante du club. À présent, l'hôtel et le restaurant ont été repris par Leslie, une petite brune pétillante qui parle aux anges et soigne les maux. Elle n'est pas là. Dommage. Sinon, je lui aurais demandé d'entrer en contact avec ma tante disparue il y a 3 ans pour qu'elle nous renseigne sur la femme de la rue des Fredins, celle qui possède sa pièce d'identité, ses dernières volontés et mon numéro de téléphone parisien. Un numéro qui m'a été attribué après le décès de Colette. Depuis hier, je tente de joindre Louis Berthéol, mais il ne répond pas. En arrivant à Gueugnon, j'ai demandé au taxi de passer devant chez lui. Tous les volets étaient fermés. J'ai rendez-vous à 14h pour reconnaître le corps. Rampin vient me chercher au Monge. J'ai 2 heures devant moi. Alors je marche jusqu'à la maison où le corps a été retrouvé. Je fais un détour pour passer rue Pasteur devant la cordonnerie. Au décès de ma tante, le magasin a été repris par un couple. Colette n'était propriétaire ni de sa boutique, ni de la maison à côté. Elle payait un loyer symbolique à Louis. « Une misère », disait-elle parfois, lorsqu'elle parlait aux chaussures et aux sacs à main qu'elle rapiéçait. Elle rangeait son argent dans une cassette. Je me souviens des billets qu'elle aplatissait du plat de la main. Un jour, un des voisins m'avait soufflé qu'à Gueugnon, il se disait que ma tante possédait un gros bas de laine. J'avais répondu « Oui, sûrement », feignant de comprendre. J'avais regardé ses jambes en rentrant à la cordonnerie. Elle portait des collants en mousse. Après son décès, Louis m'a dit qu'on n'avait rien retrouvé de son trésor imaginaire. Il devait y avoir quelque chose comme 200 euros sur son compte en banque. Je lui ai demandé de les garder pour tous les services rendus. Il m'a répondu « Être l'ami de ta tante, c'est pas un service, c'est de la chance. » « D'accord, mais garde l'argent. » La devanture n'a pas changé. Exit la pancarte, fermée pour cause de football. Elle l'accrochait sur sa porte un samedi sur deux si le match n'avait pas lieu en nocturne. Les nouveaux propriétaires ont fait poser une enseigne plus moderne. Ils ont retiré les jardinières en pierre dans lesquelles Colette faisait pousser des géraniums pour éloigner les mouches et faire joli. Toujours le même gravier dans la cour. L'habitation attenante et l'escalier qui mène à l'entrée. L'école primaire à 100 mètres. J'entends les cris des enfants dans la cour. Combien de fois y suis-je allée pour imaginer comment pouvait être l'établissement quand les élèves étaient présents? Je l'ai toujours connu désert, hors saison. Il est midi. La sirène retentit dans toute la ville. Elle chante depuis un siècle la sortie des ouvriers de l'usine des forges. 2 sorties simultanées avec les barrières qui se levaient côté pont et place des forges. Fasciné, je regardais depuis le bas du pont le troupeau s'échapper du travail sur un vélo, une mobylette ou à pied pour retrouver les voitures garées le long de Larroux, la rivière qui traverse Gueugnon. Ouvriers, cadres, technicien, contremaître, employé de bureau, contrôleur. La sirène a sonné un long quart d'heure le 8 mai 1945, jour de la capitulation de l'Allemagne. Je me retrouve devant le 19 de la rue des Fredins en quelques minutes. En chemin, j'ai fait le sombre constat que les vitrines des beaux magasins du centre-ville sont devenues des banques, des assurances, des opticiens ou des laboratoires médicaux. Seuls quelques commerçants font de la résistance. Impossible d'accéder à la cour, une haute porte en bois fermée à double tour en dissimule l'accès et de grands troènes entourent le jardin d'environ 300 mètres carrés. Je pousse, je tourne la poignée dans tous les sens, impénétrable. En reculant, j'entreaperçois des tuiles de ciment. Pas de boîte aux lettres, je n'en saurais pas plus. Je frissonne comme saisi par une fièvre subite.